Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les entreprises peuvent-elles se contenter de faire du profit ? La France n'a pas gagné l'Eurovision, mais elle est championne du monde de redistribution des profits aux actionnaires. C'est ce qui ressort d'un rapport publié ce lundi par Oxfam. Selon l'ONG, je cite, « La France est le pays au monde où les entreprises cotées en bourse reversent la plus grande part de leurs bénéfices en dividendes aux actionnaires. » Les deux tiers, le reste allant à l'investissement et aux salariés. Or, pour Oxfam, le gouvernement français doit prendre des mesures en faveur d'un meilleur partage et il a l'occasion de le faire vite dans le cadre du projet de loi Pacte. Pacte pour plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Un plan qui devrait être présenté début juin en Conseil des ministres. Un des axes de cette loi prévoit en effet de repenser la place et le rôle des entreprises dans la société. Un rapport a été rendu dans ce sens en mars dernier. Ses auteurs, Jean-Dominique Sénard, le président de Michelin, et Nicole Nota, l'ancienne numéro 1 de la CFDT, préconisent de compléter la définition de l'entreprise dans le Code civil en spécifiant qu'elle doit être gérée dans son intérêt propre en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Façon de dire que l'intérêt des actionnaires ne peut suffire à dicter sa conduite. Alors les entreprises peuvent-elles se contenter de faire du profit ? C'est la question du soir en compagnie de quatre invités. Emery Jacquilla, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le PDG de la CAMIF, qui est une entreprise de vente aux particuliers spécialisée dans l'équipement de la maison et de la personne. C'est devenu une entreprise à mission en 2017. C'est une entreprise bien connue qui existe depuis déjà de nombreuses années, mais que vous avez, on va dire, réinventé justement à la faveur de cette nouvelle définition. Pour discuter avec vous, Blanche Grestin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure en sciences du management à Mines Paris Tech. Vous avez notamment publié, c'était aux Presses des Mines en 2015, « La société à objet social étendu, un nouveau statut pour l'entreprise », ouvrage que vous avez signé de manière collective. Troisième invité, je précise d'ailleurs que l'un et l'autre, Emery Jacquilla et Blanche Grestin, vous avez été consultés dans le cadre de ce rapport Sénard-Nota. Troisième invité, Alain Bloch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de HEC Paris Entrepreneur, professeur au CNAM, le Centre National des Arts et Métiers, et vous avez signé il y a quelques semaines de cela une tribune dans les enfin, co-signé, là aussi, objet social de l'entreprise, la pérennité d'abord. Vous nous expliquerez dans le courant de l'émission ce que ça peut vouloir dire justement ce terme de pérennité. Puis quatrième invité, Carle Péchaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultante en droit de l'environnement et en RSE, RSE pour responsabilité sociale des entreprises ou sociétale, vu que vous pouvez encore aujourd'hui utiliser ces deux termes. Et vous vous intéressez notamment aux multinationales. C'est donc à vous que je voudrais adresser ma première question, puisqu'il y a donc eu aujourd'hui ce rapport Oxfam intitulé « CAC 40, des profits sans partage », où il est donc révélé ceci. Sur 600 milliards de profits de 2009 à 2017, les entreprises du CAC 40 en ont reversé 407 de ces milliards aux actionnaires, soit environ les deux tiers. Est-ce que c'est un chiffre qui vous étonne et qui paraît, comment dire, je sais pas, problématique ou choquant ? Carole Péchaud.
Alors oui, sur ce qui est plus facile peut-être à comprendre, c'est sur 100 euros en fait, environ 67 euros sont versés par le biais de dividendes aux actionnaires et uniquement 5 euros aux salariés. Donc on voit bien
l'inéquité. Environ 25, c'est pour l'investissement.
Tout à fait, l'investissement dans l'entreprise. Donc on voit bien l'inéquité en fait de la répartition de la création de la valeur et ça tombe bien puisqu'on va travailler aujourd'hui sur la place que nous souhaitons donner à l'entreprise dans la société et notamment, moi j'insisterai surtout sur le rôle de l'État, État qui est une institution démocratique et qui a comme fonction de garantir l'intérêt général et donc de faire en sorte que les grands groupes puissants transnationaux qui ont beaucoup d'argent et qui font beaucoup de profits puissent participer effectivement au bien-être et donc ne pas violer les droits humains ou détruire l'environnement et quand ils le font, pouvoir être sanctionnés, donc les responsabiliser en donnant aux victimes une opportunité de voir leurs dommages indemnisés.
Est-ce que vous êtes d'accord les uns et les autres pour parler d'une répartition inéquitable justement des dividendes ou bien est-ce qu'il y a peut-être des justifications qui seraient des justifications d'ordre économique pour dire bah, finalement c'est un étiage qui est assez courant Alain Bloch ?
Il y en a une en tout cas de justification, c'est qu'il faut savoir qui sont ces actionnaires. On parle des actionnaires de la finance internationale mais qui c'est en réalité ? En réalité ce sont des, très majoritairement, de façon écrasante, des fonds de pension. Et c'est quoi les fonds de pension ? C'est ce qui est destiné à financer les retraites d'anciens salariés. Donc en réalité, la distribution de dividendes, elle concerne essentiellement d'anciens salariés qui sont aujourd'hui en retraite. Donc il faut, je suis pas du tout en train de défendre des profits exagérés, j'y reviendrai, mais il faut tout de même voir qui sont ces fameux actionnaires et qui est cette fameuse finance mondiale. Aujourd'hui, cette finance mondiale, c'est essentiellement les fonds de pension qui sont le représentant, les représentants de l'intérêt d'anciens salariés qui sont les retraités essentiellement américains.
Blanche Segrestin.
Alors effectivement, je pense que le fait que l'actionnaire se soit transformé de manière très profonde depuis les années 70-80 joue énormément sur la manière dont les entreprises se sentent obligées, et notamment parce que chez nous, on a parlé de l'industrialisation de la finance, les gérants d'actifs étant soit des fonds de pension, soit des acteurs qui vont gérer des portefeuilles d'actions et qui vont avoir du coup des techniques de gestion de portefeuille très particulières. Mais si on a en fait ça en background pour penser en fait la manière dont les entreprises aujourd'hui utilisent leurs bénéfices, il faut aussi avoir en tête des études récentes montrent que non seulement elles versent presque les deux tiers là en France de leurs bénéfices à des actionnaires en dividendes, mais elles consacrent aussi beaucoup, et c'est notamment le cas aux États-Unis d'argent, à racheter leurs propres actions. Donc pour soutenir le cours en bourse. Et en fait, non seulement en fait, on peut penser que c'est inéquitable sur la répartition des bénéfices entre les différentes parties prenantes, et notamment les salariés, mais on peut penser aussi que ça met en péril les entreprises qui ne sont plus tellement en mesure d'investir, notamment dans la recherche et le développement à long terme, et donc d'assurer la pérennité. Donc, il y a un Américain qui parle de « profit without prosperity », des entreprises qui font du profit, mais qui ne sont pas forcément des gages de prospérité.
Alors, Aymeric Jacquia, la CAMIF n'est pas cotée en bourse, enfin, en tout cas, ne fait pas partie du CAC 40. Imaginons qu'elle le soit, en tout cas, qu'elle ait été analysée par l'ONG Oxfam. Est-ce qu'on retrouverait la même proportion par rapport à la répartition des dividendes?
Vous seriez étonné de voir la différence entre un actionnariat familial, un actionnariat de longue durée et l'actionnaire qui aujourd'hui dans les grandes entreprises cotées va peut-être être propriétaire de la société un quart de seconde parce qu'on peut pas les mettre dans le même bateau. En 23 ans, je suis un entrepreneur, j'ai créé ma société à l'âge de 23 ans. En 23 ans,
c'était une société de vente de matelas en ligne,
c'est ça ? Oui, Matelsub, on a été les premiers à vendre de la literie sur internet en France, puis on a repris la CAMIF en 2009. En 23 ans, je me suis pas distribué 1 euro de dividendes. Donc j'ai tout réinvesti dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que j'ai une vision de long terme. Moi, mon sujet, c'est comment je vais transmettre l'entreprise à la génération suivante. Comme beaucoup de chefs d'entreprise, comme beaucoup d'entrepreneurs raisonnent, parce que l'entreprise, l'actionnariat familial, il est attaché à un territoire, il est attaché à une qualité de vie, il est attaché à un modèle qui n'est pas celui des grandes entreprises. Et aujourd'hui, il y a un certain désordre dans le capitalisme traditionnel qui a été poussé jusqu'au bout. Et je crois l'enjeu du débat actuel dans le cadre de la loi Pacte, c'est de remettre de l'ordre dans tout ça, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle n'appartient pas, la société, elle appartient à ses actionnaires, mais l'entreprise, elle n'appartient pas à ses actionnaires. L'entreprise, elle appartient autant à ses actionnaires qu'à ses clients, qu'à ses fournisseurs, qu'au territoire sur lequel elle est implantée, qu'aux collaborateurs de l'entreprise.
Oui,
parce que vous enlevez
ça, quand
des dimensions, des 5 parties prenantes, pour n'oublier aucune, vous pouvez utiliser l'acronyme de la CAMIF, le C, les clients, le A, l'actionnaire, le M, le monde qui entoure l'entreprise, son territoire, le I, l'intérieur de l'entreprise, les collaborateurs, le F, les fournisseurs. Vous enlevez une de ces parties prenantes, vous n'avez plus d'entreprise. Aucune entreprise n'est viable sans clients, aucune entreprise n'est viable sans collaborateurs. Et pour réengager toutes les parties prenantes de l'entreprise, il faut rééquilibrer le rapport entre l'actionnaire et toutes ces parties prenantes.
En matière de rééquilibrage, il y avait d'ailleurs eu une proposition il y a quelques années de cela, de Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était à l'Élysée. C'est une règle qu'il avait posée, qui était une règle des 3/3 en matière de répartition des dividendes. 1/3 pour les actionnaires, 1/3 pour l'investissement, 1/3 pour les salariés. Pourquoi est-ce que cette règle-là n'a pas été davantage adoptée par les grandes entreprise, Alain Bloch?
Parce qu'elle sortait quand même un petit peu d'un chapeau. Excusez-moi de vous dire que pourquoi 3/3 et pourquoi pas...
C'est simple au moins.
Oui, voilà, ça a la vertu de la simplicité, mais enfin, ça sort un peu d'un chapeau. Non, ce que je crois, le mot important qui a été prononcé d'ailleurs par Blanche à l'instant, c'est effectivement le mot pérennité. Je crois qu'il est important parce que vous venez de dire les parties prenantes, on vient de dire les parties prenantes, mais finalement, la pérennité a un énorme avantage, c'est qu'elle réunit les parties prenantes. C'est-à-dire que tout le monde a intérêt à la pérennité. Toutes les parties prenantes ont intérêt à ce que l'entreprise dure. Alors que le profit, et en fait, il n'y a pas 36 solutions pour une entreprise. Hein. C'est une entreprise, c'est d'abord un projet et accessoirement des profits. Ce qui est clair, c'est que pour défendre le projet à long terme, c'est-à-dire le temps long qui est cher effectivement aux entreprises familiales et à d'autres entreprises, il faut revenir à cette notion de pérennité. Voilà, et c'est la raison pour laquelle j'ai un peu milité pour cette question qui me paraît une idée simple, mais en même temps forte. C'est que la pérennité rassemble les parties prenantes.
Alors justement, est-ce que ce temps long, il est suffisamment pris en compte aujourd'hui dans la définition que donne le Code civil de l'entreprise ? Enfin, de l'entreprise, non. Justement, on parle de société, on ne parle pas d'entreprise dans le Code civil. Article 1832, on va faire un petit peu de juridique, pas trop longtemps, mais la société est instituée, je ne lis pas en entier, mais en tout cas, je fais un petit résumé, la société est instituée en vue de partager les bénéfices. Article 1833, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. Carole Péchaud, est-ce que pour vous, ces définitions-là autorise justement les phénomènes auxquels on assiste à travers le rapport dévoilé aujourd'hui par Oxfam, c'est-à-dire permettre finalement une répartition extrêmement inéquitable de ces profits.
En fait, les modifications qui sont proposées dans la loi Pacte, autant le sujet qui est proposé...
Là, ce n'est pas les modifications que j'ai lues. Hein. Pour l'instant,
oui,
c'est ce qui existe
dans
le Code civil.
À mon sens, le Code civil aujourd'hui est toujours imparfait, mais à mon sens, ce qu'on va rajouter, en tout cas ce qu'on va lui rajouter dans la loi Pacte, ne va pas forcément changer la donne, à part si il y a une opposabilité en fait, de ce qu'on va intégrer pour l'entreprise. Donc effectivement, nous souhaitons que l'entreprise considère, voire plus que considère, respecte en fait, le cadre légal, donc ses obligations environnementales et les droits humains. La question, c'est dans quelle mesure la modification du Code civil va apporter un changement à l'ordre actuel des choses, qui est aujourd'hui, nous avons notamment, il y a une loi en France quand même qui est sortie l'année dernière, qui vise aussi à repenser l'entreprise dans la société, qui est la loi devoir de vigilance relative aux sociétés mères et donneuses d'ordre, et qui vise à obliger les grands groupes, donc les groupes du CAC 40, à faire un plan de vigilance pour lister les risques de leur groupe et de leur chaîne de valeur. Et en face, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour y pallier. Aujourd'hui, la loi Pacte, à mon sens, n'apporte pas beaucoup plus que cette loi-là, d'une part. Et d'autre part, et c'est là où le débat va s'ouvrir aussi, les grands patrons aujourd'hui du CAC 40 qui défendent cette loi haut et fort, et M. Bruno Le Maire qui la défend également, sont les mêmes acteurs qui, lors de la loi de violence, ont tout fait pour qu'elle ne sorte pas, cette loi, et qui aujourd'hui, en plus, veulent des contreparties à leur soutien à la loi Pacte, notamment de détricoter peut-être des lois qui, à mon sens, sont pertinentes, notamment la loi de violence de l'année dernière.
Alors, juste pour qu'on comprenne bien, hein, moi j'évoquais ce qui existe aujourd'hui dans le Code civil, hein, c'est-à-dire le article 1832, article notamment 1833, qui pourrait être augmenté d'un alinéa. Donc je rappelle l'article 1833. Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. Donc là, ça laisse effectivement la possibilité de répartir les dividendes comme on le souhaite. Et le rapport Sénarnota propose d'ajouter cet alinéa. La société doit être gérée dans son intérêt propre en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Qu'est-ce que ça change, Blanche Segrestin ? Est-ce que vous partagez l'avis de Carole Péchaud qui dit que finalement ça ne va pas changer grand-chose ?
Alors pas tout à fait. Non, au contraire. Je pense que et l'ensemble des travaux qui ont été menés alors par plusieurs groupes de recherche, hein, que ce soit à l'École des Mines ou au Collège des Bernardins depuis maintenant 2009, montrent qu'en fait, la situation, vous voyez, le rapport Oxfam aujourd'hui nous dit le fait que l'entreprise soit perçue a priori comme un dispositif de maximisation des profits est ravageur d'un point de vue social, mais aussi pour la pérennité des entreprises. Et ça, alors les travaux de recherche qu'on a menés depuis un moment avec mes collègues montrent que on a en fait confondu ce qu'on appelle la société et justement un cadre juridique qui définit une société avec les articles que vous venez de rappeler et ce que c'est que l'entreprise. Or, qu'est-ce que c'est que l'entreprise ? Confondre l'entreprise avec la société, c'est là où en fait il y a voilà, quelque chose qui se restreint à voilà, un dispositif en économie, c'est pour des producteurs qui vont maximiser des profits. Or, historiquement et théoriquement, la société, c'est un dispositif de financement d'un projet. On va mettre en commun des moyens et l'article effectivement 1832-33 dit du coup la société doit être gérée sans inéquité entre les associés. Mais à aucun endroit, on a ni dans le Code civil, ni dans le Code du commerce, ni dans le droit du travail, de définition de l'entreprise. Et l'entreprise, historiquement, c'est quelque chose, alors que vous voyez, les articles du 132-33 viennent du code Napoléon, en fait, 1804, et le code de société anonyme, un droit de 1807, qui n'a quasiment pas... Enfin, ouais, il y a eu beaucoup d'évolutions, mais la base est restée la même. L'entreprise moderne, avec un management, avec des salariés, des contrats de travail, n'est que début 20e, fin 19e, début 20e. Et en fait, il faut penser, l'entreprise moderne, elle est née non pas simplement d'un objectif de faire du profit, mais c'était l'époque où il s'agissait de développer les télécommunications, de développer des nouvelles thérapies, de développer des technologies et des services qui n'étaient pas préalables et disponibles, accessibles par le marché.
Ça veut et dire... donc en modifiant la définition de ce qu'est une société, même si ça resterait quand même une société manifestement dans le code civil, qu'est-ce que ça changerait ? C'est-à-dire, est-ce que...
Alors justement, l'enjeu essentiel, c'est de dire voilà, l'entreprise n'est pas réductible à la société, l'entreprise comporte des parties plus diversifiées que les seuls associés, et elle a effectivement une raison d'être, un objectif. L'action, en fait, qu'elle vise à organiser peut consister à développer des produits, des nouvelles thérapies, par exemple, pour lutter contre le cancer, des solutions pour lutter contre la transition énergétique. Et voilà, spécifier cette finalité de l'entreprise, de l'action collective que l'on souhaite mener ensemble avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit notamment, enfin, en premier lieu desquelles les salariés et les actionnaires, permet de dire non, l'objectif de l'entreprise n'est pas réductible à l'intérêt des associés.
Mais cet objectif-là, il est déjà, par exemple, au cœur de l'action que vous menez avec la CAMIF, Emery-Jacqui. Il y a la mission de la CAMIF, hein, puisque vous êtes une entreprise à mission. C'est ce qu'on peut lire sur votre site, je crois. Proposer des produits et services pour la maison conçus au bénéfice de l'homme et de la planète, l'homme avec un grand H, hommes et femmes donc. Collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Une entreprise qui a envie d'aller sur ce terrain, elle n'a pas forcément besoin d'un changement législatif pour y aller, non ?
Il y a un enjeu clé, c'est comment on redonne du sens à nos entreprises. Blanche l'a dit, il faut retrouver de la confiance entre le citoyen, qui est également un consommateur, mais qui est également un collaborateur. Et pour réengager le collaborateur, le client, etc., il faut redonner du sens à nos entreprises. Pour leur redonner du sens, il faut leur redonner une raison d'être, une mission qui va bien au-delà. Et quand on dit, est-ce que les entreprises peuvent se contenter de faire du profit ? Je vais répondre, si elles se contentent de faire du profit, elles ne vont pas faire du profit très longtemps. Parce que ce que la société attend aujourd'hui des entreprises, c'est qu'elles participent à préparer demain, à relever les défis, qui sont des défis majeurs qu'on a tous, des défis environnementaux, des défis sociaux. Le 5 mai dernier, c'était le jour du dépassement en France. C'est-à-dire que le 5 mai, on avait consommé ce que la planète est capable de produire en un an. Ce qui veut dire qu'il ne faudrait pas faire, comme le président le dit, « mec de planète great again », c'est « mec 2,9 planète great again ». Parce que c'est bien ça le sujet. Donc les citoyens, les entrepreneurs, les dirigeants, les collaborateurs, ils ont envie que les entreprises s'engagent. Et les entreprises qui trouveront une raison d'être, qui arriveront par leur activité en mobilisant leurs collaborateurs, leurs capitaux aussi, à résoudre ces enjeux-là, ce seront les entreprises gagnantes du 21e siècle.
Mais est-ce que vous, à la CAMIF, vous avez besoin justement d'une nouvelle loi pour pouvoir le faire ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous permettrait que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, par exemple ?
Alors, la nouvelle loi, elle permet de rendre visibles ces entreprises qui sont davantage contributrices que les autres pour le bien commun, pour l'intérêt général ou pour des enjeux sociaux et environnementaux. Elle permet aussi de pérenniser la démarche de l'entreprise au-delà d'un changement d'actionnaire, au-delà d'un changement même de dirigeant. Et donc ça, c'est important. Et la loi permet également de donner un cadre à toute une série d'entreprises, d'entrepreneurs, de dirigeants qui veulent s'engager dans une voie d'une entreprise plus contributrice qu'on peut appeler l'entreprise à mission. Et donc, on a besoin de la loi pour donner un cadre, pour pérenniser, pour sécuriser également. Je vais vous donner un exemple très clair. L'année dernière, le jour du Black Friday, nous, on a fermé le site de la CAMIF. On n'a rien vendu ce jour-là.
Alors, Black Friday, je rappelle, c'est un jour... C'est des soldes
énormes,
c'est
ça ? Une sorte de syndrome de l'hyperconsommation, de la surconsommation imposée par les Américains. Bon, le Black Friday est devenu quelque chose d'énorme. Et ce jour-là, nous, on a décidé de fermer le site et d'envoyer nos collaborateurs montrer quelles étaient les alternatives à la surconsommation.
Et c'est totalement contre-intuitif par rapport à la pérennité d'une entreprise de dire, ce jour-là, on ne va rien vendre.
Voilà. Et donc compte-là, j'aurais pu être attaqué si on n'avait pas travaillé sur la mission, si on n'avait pas engagé nos actionnaires dans cette voie-là, j'aurais pu être attaqué pour une faute de gestion. On ferme le site le plus gros jour de chiffre d'affaires. Bon, on a fait un record de chiffre d'affaires, on a fait zéro ce jour-là. Mais pourquoi ? Parce qu'on a été engagé dans une consommation responsable à la CAMIF. On s'engage pour inventer ces nouveaux modèles d'une économie plus circulaire, plus inclusive, plus locale. On fait 73% de notre chiffre d'affaires avec des fabricants français. Et donc, si on n'avait pas fait ce travail-là, oui, j'aurais pu être... En tant que dirigeant, j'aurais pu faire une faute de gestion.
Carole Péchaud et ensuite Alain Bloch. Carole Péchaud.
Oui, en fait, je voulais juste revenir sur ce qui vient d'être dit. Et effectivement, ça serait parfait si toutes les entreprises se comportaient comme la CAMIF. On vient de voir que la CAMIF a un comportement qui a l'air responsable et en tout cas assez innovant en la matière sans avoir eu besoin d'une loi. Et quand on regarde un petit peu dans la presse ce qui sort sur la loi Pacte, on voit bien qu'il y a un souci effectivement de redonner du sens à l'entreprise, de redorer l'image des entreprises auprès des citoyens parce qu'elle est très dévalorisée, ce qui est légitime puisqu'on voit tous les jours des scandales. Le Rana Plaza a impulsé le scandale, enfin au Bangladesh a impulsé la loi devoir de vigilance, mais il y a Dieselgate. Voilà,
je rappelle, c'est cet immeuble qui s'est effondré.
Effondrement d'un immeuble au Bangladesh avec des morts, plus de 1300 mortes qui étaient des ouvrières textiles, fournisseurs de grands groupes français type Carrefour, etc. Donc il y a le Dieselgate où il y a eu fraude, il y a les Panama Papers, enfin tous les jours on pourrait faire la liste pendant plus d'une semaine, il y a des exactions opérées par ces grandes entreprises. Et on voit donc le Monde en mars 2018, il y avait un édito qui disait qu'il n'y a que 44% des Français qui ont confiance en l'entreprise, et donc pour certains grands patrons, et c'est normal, c'est un peu la crise de la confiance vis-à-vis de l'entreprise de la part des citoyens, mais également des salariés qui se retrouvent pas forcément dans l'entreprise, et donc la loi Pacte vient effectivement redonner du sens. La question c'est, est-ce que c'est l'objectif d'une loi que de redonner du sens à une entreprise, ça c'est une première question. Et deuxièmement, pareil, quelles sont les vraies avancées qui vont avoir lieu via cette loi Pacte ? Quand on sait aujourd'hui que la loi devoir de vigilance, on y reviendra si vous le souhaitez, mais qui est vraiment la première loi au monde à aller aussi loin en termes d'obligations légales pour les multinationales sur les droits humains et l'environnement, aujourd'hui les entreprises qui sont soumises à cette loi, donc à faire des plans de vigilance, le font de façon très mal, à mon sens. Les premiers plans sont très peu ambitieux, ce qui montre qu'il y a une volonté de casser l'esprit de la loi.
Et donc, c'est une loi qui est toute neuve. Hein.
Donc, c'est une loi qui a un an, donc il faut du temps d'adaptation, voilà. Effectivement. Mais en tout cas, pour l'instant, les plans ne sont pas à la hauteur. Et les grands patrons qui ont combattu cette loi, aujourd'hui, se mettent comme leaders pro-RSE, avec une loi Pacte qui met le sujet sur la table, mais qui, à mon sens, n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc, ça ne mange pas de pain d'être pour. Et derrière, détricote. En tout cas, ont envie de détricoter cette loi devoir de vigilance, alors que, et je finis là, à l'ONU aujourd'hui se tient un processus qui est inédit, qui vise à créer le premier traité international contraignant sur les multinationales et les droits humains. Et donc les entreprises type Danone, Michelin, Schneider Electric, Total, ces entreprises qui disent aujourd'hui qu'elles veulent œuvrer pour le bien commun, qu'elles veulent faire partie de cet élan, qu'elles soutiennent alors ce type de processus, et pas juste un minima, un petit article dans une loi qui ne changera, à mon sens, pas grand-chose.
Et puis il faut peut-être voir justement à quoi ça engage, justement, si on adhère à ce type de dispositifs, par exemple celui des entreprises à mission. On va y revenir dans un instant, mais je voudrais faire réagir Alain Bloch à ce que vous avez dit, Carole Péchaud. Dites, si toutes les entreprises agissaient comme la CAMIF, finalement ce serait bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça,
Mais complètement, je crois que fondamentalement, il faut tordre le cou à l'idée que l'entreprise est une machine à faire des profits. C'est faux. L'entreprise n'est pas une machine à faire des profits. Les profits, c'est un moyen. L'entreprise, c'est d'abord un projet. C'est un but commun, collectif, c'est une action collective, c'est un projet. Et en fait, les salariés, ils n'ont qu'une envie, c'est de défendre ce projet. Regardez aujourd'hui le conflit d'Air France. C'est très étonnant d'écouter les représentants syndicaux dans le conflit d'Air France. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, mais c'est pas vraiment une question de salaire. La vraie question, c'est qu'il n'y a plus de projet Air France. Et au fond, même dans un conflit comme celui-là, où on a l'impression que c'est la revendication salariale qui est au cœur des choses, les salariés, les représentants syndicaux disent, c'est d'abord une question de projet, il n'y a pas de projet industriel dans cette entreprise. Donc, les salariés, ils ont besoin d'un projet. Et moi, je voudrais rappeler, revenir sur cette idée de pérennité. Blanche disait tout à l'heure, la recherche a effectivement démontré un certain nombre de choses en matière de performance des entreprises. Elle a en particulier démontré que les entreprises qui privilégiaient la pérennité étaient finalement, sur le long terme, les plus performantes. Ça veut dire que non seulement la recherche du profit à court terme est dévastatrice, mais elle est contre-productive sur le long terme. C'est-à-dire que, compte tenu des environnements de crise que nous traversons régulièrement, en réalité, la seule façon de gouverner intelligemment une entreprise, c'est effectivement de privilégier l'objectif de pérennité. Et on le comprend, la pérennité, une fois de plus, c'est d'abord la pérennité du projet. Et c'est ce qui mobilise les salariés. Quiconque a été dirigeant d'entreprise sait que on mobilise pas les salariés autour d'un indice de profit. C'est même dévastateur. Donc, voilà, il faut arriver à sortir de cette idée fausse, mais qui a été largement répandu hein, par un prix Nobel d'économie, Milton Friedman. On a tous été coupables, nous les enseignants de gestion, parce qu'on a laissé ce paradigme s'installer. Il est désastreux, il faut aujourd'hui le combattre et lui trouver un paradigme de remplacement. Je pense que c'est la pérennité.
Mais comment elle fait pour le faire appliquer, Blanche Segrestin, cette idée de pérennité, justement? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait en faire un droit opposable, par exemple? Alors, je reviens sur cette idée d'intérêt propre de l'entreprise. Est-ce qu'il pourrait y avoir, je ne sais pas, un système de sanctions, par exemple, qui ferait que si une entreprise va à l'encontre de ces principes-là, elle pourrait être sanctionnée, ou bien il faut que ça fonctionne autrement?
Il y a depuis, en fait, très nombreuses années, le cas de la Camif est exemplaire, mais il y a beaucoup d'autres entreprises qui œuvrent effectivement à l'intérêt général avec des projets, notamment aujourd'hui, dont on a excessivement besoin de manière inédite. C'est des projets, par exemple, pour lutter contre les inégalités, la pauvreté extrême et la transition énergétique. Le changement climatique change quand même. On a énormément besoin de l'investissement des entreprises dans la recherche et dans l'innovation. Or, c'est ça qui aujourd'hui est fragilisé. C'est qu'il y a des entreprises qui sont très engagées d'un point de vue social et environnementale, mais elles sont fragiles parce que le droit ne les protège pas, notamment en cas de changement d'actionnariat. Et l'intérêt, en fait, de changer le cadre
juridique... C'est-à-dire que l'actionnariat peut exiger, finalement, d'autres objectifs, des taux de rentabilité qui peuvent fragiliser l'entreprise, c'est ça ?
Les démarches de responsabilité sociale et environnementale, depuis les années 80, ont beaucoup changé les pratiques, mais elles n'engagent personne. Et les donneurs d'ordre, enfin, en tout cas, ceux qui nomment et qui révoquent les dirigeants, sont, en fait, libres, éventuellement, de revenir sur des engagements. Et la société... Personne morale, elle-même, n'est pas engagée. Le fait d'inscrire dans les statuts d'une entreprise, donc le principe d'une entreprise à mission, c'est que les associés inscrivent dans les statuts même de leur société ce à quoi l'entreprise s'engage à contribuer du point de vue de l'intérêt collectif.
Mais ce que je comprends du coup, c'est que finalement, c'est moins un dispositif qui est censé s'appliquer à l'ensemble des entreprises qu'une possibilité et une protection qui est offerte à celles qui ont envie de s'engager dans cette voie-là, Blanche Segrestin, c'est ça ?
Alors, effectivement, le rapport Nota-Sénard propose deux niveaux d'engagement, on va dire. Il propose d'une part, on pourrait même dire trois niveaux d'engagement, que pour toutes les entreprises, le Code civil et l'article 1833 indiquent que l'activité doit être menée en tenant en compte l'impact sur l'environnement et la société de l'activité de l'entreprise. Un deuxième niveau, le rapport préconise que les conseils d'administration formulent la raison d'être qui doit guider justement les choix stratégiques au regard d'une finalité qui n'est pas forcément exactement l'intérêt des associés. Et puis il y a un troisième niveau, c'est qu'effectivement elle donne la possibilité, avec l'idée d'entreprise à mission, de dire chaque entreprise peut se définir librement sa mission, ce à quoi elle veut contribuer, mais ce qui est essentiel, c'est que dès lors que c'est inscrit dans les statuts, alors effectivement ça devient opposable. Là où la RSE, si vous voulez, n'engageait personne et pouvait être réduit, et c'est ce qu'on a appelé le greenwashing, etc., à des démarches qui étaient justes. On engageait des projets de RSE tant que c'était dans l'intérêt bien compris de la société, mais au-delà pas forcément.
Donc ça n'a pas empêché
le Dieselgate, par exemple, ou d'autres scandales comme le Rana Plaza, etc. Aujourd'hui, justement, c'est comment est-ce que ça devient opposable et avec des dispositifs de gouvernance qui permettent un contrôle de ces engagements.
Carole Péchaud.
Oui, juste pour revenir très rapidement, en fait, jusqu'à la loi devoir de vigilance, et donc j'insiste sur cette loi, effectivement, on appelle ça une architecture de l'impunité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui permette en droit à des victimes de demander justice devant un juge pour réparation de leurs dommages. Donc l'engagement aujourd'hui, il existe. Alors l'article peut-être va l'améliorer, mais je ne pense pas, mais en tout cas l'engagement, il existe. Et à mon sens, une entreprise, de toute façon, qu'on le dise ou pas dans l'article du Code civil, doit tenir compte de ses impacts environnementaux et droits humains. Enfin, c'est la base, en fait, comme tout acteur d'un état de droit qui doit se conformer au cadre légal. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, sur entreprise à mission, évidemment, à partir du moment où c'est inscrit dans les statuts, il y a une obligation statutaire, mais ça existe indépendamment de la loi PACTE, ça a toujours existé. Et à mon sens, dans la loi PACTE, ce qu'on va voir arriver, c'est qu'on donne une option, en fait, à des entreprises d'être des entreprises à mission. Donc, on inscrit une option, donc du volontaire, dans une loi, ce qui est quand même assez innovant pour le coup, c'est bizarre. Et on voit très bien que les entreprises à mission existent déjà. Et ça risque, à mon sens, il y a déjà l'ESS qui existe. Alors, moi, j'aimerais savoir la différence
sociale et solidaire, voilà.
Entre l'ESS et l'entreprise
à mission. Les acteurs de l'ESS, d'ailleurs, disent aujourd'hui, se disent un petit peu inquiets, parce qu'ils ont peur que.
Donc, pourquoi ne pas aller vers
l'ESS ? Remise en cause, en tout cas, d'équilibres qui sont assez.
Et le fait que ça soit optionnel, ça veut dire que est-ce que toute entreprise qui n'aura pas choisi de façon optionnelle de devenir une entreprise à mission sera une mauvaise entreprise ?
Alors, c'est le choix d'être une entreprise à mission. C'est le choix que vous avez fait, Emery Jacquilla. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez, c'est-à-dire comment vous mettez en œuvre le respect de ces missions. Parce que finalement, c'est bien beau ce que vous nous dites là ce soir. Mais qu'est-ce qui me prouve finalement que vous allez justement tenir ces missions au bout? Comment est-ce qu'on évalue ça? Et quels sont les... Alors, je ne sais pas s'il y a un système de sanctions. Enfin, qu'est-ce qui se passe si vous ne remplissez pas les missions que vous vous êtes...
Alors d'abord, l'entreprise à mission qu'on a reconstruite avec la relance de la CAMIF, ça n'est pas fait du jour au lendemain. On a mis 8 ans pour le faire. La première des choses, c'est qu'on s'est dit, ce qui est important en relançant la CAMIF, c'est qu'on ait un impact positif, que notre projet puisse avoir un impact positif pour le territoire, à Niort, pour y recréer des emplois, pour les fournisseurs qui avaient perdu de l'argent à la suite de la chute de la CAMIF. Et donc, on a pensé notre projet autour de ça. On a recréé 170 emplois à Niort. On y a installé un centre de relations clients.
Mais il y avait des objectifs chiffrés, par exemple. Vous disiez, voilà, il faudrait qu'on atteigne tant d'emplois créés au bout de tant d'années.
Oui, oui. On s'était fixé des objectifs chiffrés sur le nombre d'emplois recréés à Niort. On ne les a pas complètement atteints, mais voilà. En tout cas, on pense bien qu'on va les atteindre. Mais 170 emplois par l'installation d'un centre de relations clients à Niort, ce qui n'était pas du tout dans la tendance à l'époque. Quand on a fait le choix du Made in France et qu'on a décidé de valoriser la qualité, la fabrication française, c'était avant qu'on ait un ministre qui porte la marinière, mais c'était aussi une façon pour nous de réengager le tissu de fabricants français qui travaillaient déjà avec la CAMIF. Donc, et cet engagement-là aujourd'hui se traduit par 137 fabricants qui représentent 73% de notre chiffre d'affaires. Quand on regarde l'analyse de l'impact induit par l'activité de la CAMIF, c'est un effet multiplicateur de x14 sur les emplois en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un effet, quand vous achetez à la CAMIF, tous les 250 euros d'achat, c'est un emploi soutenu en France. Et ça, ça fait une vraie différence par rapport aux autres distributeurs.
Mais qui se charge d'évaluer justement le respect de ces objectifs?
Ça, c'était au redémarrage, ouais. S'attacher à avoir un modèle à impact positif. Ensuite, on a commencé à structurer notre démarche à partir de 2013 en faisant deux choses, en collaborant avec MinParisTech pour se dire, finalement, quelle est notre raison d'être? Pourquoi la CAMIF est là? Et donc, on a mis un certain nombre d'années pour pondre nos deux phrases qui sont aujourd'hui, qui caractérisent la mission de la CAMIF. On a cherché aussi tout de suite à évaluer notre impact. On a été une des premières Bicorp en France en 2015. Alors Bicorp, c'est un label international qui est né aux États-Unis et en fait, qui a été initié par un des cofondateurs de Ben & Jerry's qui un jour avait pris un procès d'un de ses actionnaires, justement, qui lui reprochait de pas avoir fait assez de profit, d'avoir soutenu des associations. Et là, il s'est dit, il y a un truc qui tourne par rond. Et au pays du capitalisme, ils ont mis un statut à part entière d'entreprise, ça s'appelle les Benefit Corporation, qui, en fait, allie profit et impact. Et ça montre bien que c'est présent aujourd'hui dans 52 pays au monde. Et cette labellisation B Corp, elle s'attache à démontrer sur l'ensemble des enjeux du développement durable et sur l'ensemble des parties prenantes l'impact positif du modèle d'affaires de l'entreprise. Ça se traduit très concrètement. Il y a 200 questions auxquelles vous devez répondre. Une des questions, c'est est-ce que vous travaillez avec des banques locales? J'avoue que je m'étais jamais vraiment posé la question. Nous, on travaille le crédit coopératif à Niort. Eh bien, le choix d'une banque, quand vous êtes une entreprise, ça influence considérablement l'impact que vous avez sur votre territoire. Donc oui, on a fait cette évaluation Bicorp pour justement prouver l'impact positif du modèle de l'entreprise. Et puis ensuite, on a mis aussi en place une gouvernance associée à la mission pour évaluer plus spécifiquement comment l'entreprise agit conformément ou pas à cette mission. Dans cette gouvernance, on y associe des collaborateurs. On a l'ambition, c'est pas encore fait, d'y associer des clients. On associe aussi des administrateurs extérieurs indépendants qui ont un regard qui ne sont pas jugés partis, hein, qui ont un regard indépendant. Et cette cellulose, puisqu'elle s'appelle comme ça, la cellule à l'objet social étendu, a pour vocation tous les ans de pondre un rapport publié, hein, qu'on peut trouver sur notre site internet, dans notre rapport RSE, sur comment l'entreprise s'engage concrètement à faire avancer sa mission. Voilà. C'est ces quatre points-là qui sont caractéristiques de l'entreprise à mission que moi j'aimerais voir dans la loi PACTE, parce qu'effectivement la loi PACTE ne doit pas se contenter d'une modification d'un relifting du code civil. Elle doit caractériser ce qui est l'entreprise à mission. Et l'entreprise à mission, c'est l'entreprise qui a fait l'effort de co-construire sa mission. On l'a fait avec nos parties prenantes, on a interrogé nos clients, nos fournisseurs, nos collaborateurs, notre territoire. Qui a obtenu l'engagement des actionnaires de tenir compte de l'intérêt de l'entreprise et de la mission de l'entreprise et qui évalue sa mission. Parce que si on n'évalue pas, on tombe dans le mission washing ou le green washing et ça, c'est juste tout ce qu'on veut éviter. Il y a un enjeu, c'est qu'il y ait un maximum d'entreprises qui s'engagent dans cette voie-là parce qu'on en a besoin. Le monde en a besoin.
Un maximum d'entreprises, sauf que ce sont des entreprises qui évoluent dans des secteurs qui peuvent être très concurrentiels. C'est le cas de la Camif. Hein. Vendre des produits pour la maison, bah, c'est quelque chose qui existe. On peut, par exemple, acheter énormément de choses sur un autre site qui s'appelle Amazon. Hein. J'imagine que c'est un de vos concurrents.
C'est une autre façon de résister aux GAFA. Ouais. Si on résiste aux GAFA, si on arrive à être rentable aujourd'hui, par rapport à des acteurs qui sont beaucoup plus gros que nous, c'est justement parce qu'on fait sens.
Oui, mais est-ce que c'est pas beaucoup plus facile de faire sens si vous êtes quelques-uns que si vous vous retrouvez noyé dans la masse? Vous évoquiez par exemple le fait de faire appel à des banques, alors plutôt des banques locales. Le secteur bancaire, Alain Bloch, c'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel. On imagine mal, par exemple, des banques, ouais. Ou en tout cas le secteur bancaire, où toutes les banques se diraient, tiens, voilà, on va être des entreprises à mission.
Il y a eu un très bon article d'ailleurs sur le sujet dans Le Monde de Pierre-Yves Gomez, qui est un collègue de l'école de management de Lyon, qui a repris l'exemple des caisses d'épargne qui étaient des entreprises à mission et qui ont été finalement tout au long de leur histoire plus ou moins absorbées par des entreprises qui n'étaient pas à mission.
Et donc, parce que les caisses d'épargne aujourd'hui, sont des banques comme les autres.
Absolument. Et sa conclusion, c'était que les entreprises à mission, sans une régulation pour leur permettre finalement de survivre, c'était périlleux et que forcément ça posait des problèmes d'ordre concurrentiel. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que effectivement c'est probablement un des sujets de cette loi, hein, c'est que elle va à la fois ou trop loin ou pas assez loin, quoi. Elle est quelque part un peu une espèce elle est à mi-chemin parce que au fond si c'est juste une option pour les entreprises. Alors, il faut voir comment on protège ces entreprises à mission, parce qu'elles ont clairement un déficit concurrentiel de compétitivité, probablement, pas toujours, mais en tout cas, ça peut être un risque. Hein. En tout cas, l'exemple des caisses d'épargne, c'est celui-là.
En même temps, ça ne peut pas être une obligation pour l'ensemble des entreprises.
Alors, effectivement, ça ne peut pas être une obligation pour l'ensemble des entreprises. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. D'où la pirouette de l'article 1833 du Code civil, où on rajoute les enjeux... les enjeux environnementaux, mais même ça, c'est presque un peu dangereux, parce qu'on soulève effectivement un peu, on ouvre une boîte de Pandore. Qu'est-ce que c'est ces enjeux? Comment sont-ils définis juridiquement? Est-ce que ça va effectivement donner lieu à des actions juridiques, etc.?
Donc, ce sera peut-être dans le projet de loi, on ne sait jamais.
Oui, peut-être. En tout cas, tel qu'il est là, cet article 1833, il fait très peur à certains entrepreneurs, et je peux le comprendre. En même temps, on est difficilement contre. Hein. C'est vrai que, clairement, considérer les enjeux environnementaux et sociétaux, ça paraît la moindre des choses. Mais en même temps, je pense qu'il faut se méfier des objets juridiques non identifiés qui ouvrent comme ça des boîtes de Pandore. D'où l'intérêt de la pérennité qui, elle, est un objet juridique identifié puisqu'il est clairement, elle est clairement définie dans la loi, notamment sur la loi des difficultés des entreprises.
Blanche Grestin.
Il faudrait vraiment réinterroger cette idée que les entreprises qui se donnent une mission d'intérêt collectif est un déficit de compétitivité. Les études tendent à montrer que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est aussi des entreprises qu'on empêche, vous voyez, que ce soit dans les semi-conducteurs, ou dans les pharma ou autres. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas la possibilité de renouveler le pipe de vos produits, les compétences à terme...
Le pipe, qu'est-ce que c'est le pipe des produits?
L'ensemble des produits qui sont en recherche, à développer, et qui vont faire la pérennité de l'entreprise... Et la capacité à renouveler les produits à terme et du coup la compétitivité de l'entreprise, c'est ça aujourd'hui qu'il s'agit de défendre. Donc au contraire, les entreprises qui ont la possibilité de défendre un projet focalisé sur l'avenir de l'entreprise, son intérêt propre et sa finalité, on peut penser, mais l'avenir le dira. Et donc laissons effectivement l'option, l'avenir le dira, ces entreprises-là, elles... Il n'y a pas de raison, a priori, d'un point de vue théorique, qu'elle soit défavorisée. On peut au contraire penser le contraire.
Carole Péchaud, mais il vous reste 20 secondes.
Tout à fait. Donc très rapidement, moi je pense que toutes les entreprises doivent respecter les enjeux environnementaux et sociaux. C'est la loi, en fait. On doit respecter un cadre légal. Les droits humains, c'est la base de la France, même internationale. Donc c'est pas une option, en fait, de respecter l'environnement et les droits humains. C'est une obligation que l'État doit faire valoir en tant que garant de l'intérêt général. Et je pense que c'est ça l'enjeu. Et il faudrait que la loi de l'environnement soit mieux connue et qu'on arrive à ce qu'il n'y ait pas des différences entre entreprises, mais que toutes puissent respecter et allier profit et respect des droits humains. humain.
Voilà, bah, rendez-vous début juin avec cette... Enfin, début juin normalement, parce qu'elle devait être présentée en avril, puis en mai. Maintenant, on parle de début juin pour cette fameuse loi Pacte. On verra bien s'il y a des surprises ou pas. Ce sera peut-être l'occasion de vous réunir à nouveau, pourquoi pas, pour la commenter. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Emery Jacquilla, Carole Péchaud, Blanche Grestin et Alain Bloch. Discussion que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Demain matin, vous devriez même voir... Non, pas d'extrait vidéo. À chaque fois que j'annonce qu'il va y avoir des extraits vidéo le lendemain, on me fait signe, Véronique Villa qui réalise l'émission, que non, ça sera peut-être pas possible. Eh bien, tant pis, ça sera pour une autre fois. La radio, ça reste de la radio. Merci à toute l'équipe du Grain, Isolde Sicard, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Prune Saez. La prise de son ce soir était assurée par Clément Daté.